bien, vous écoutez France Culture. Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les femmes sont-elles en droit de congeler leurs ovocytes pour choisir le moment où elles voudront enfanter, indépendamment de leur fertilité naturelle? Voici l'une des questions sur lesquelles s'est penché le comité d'éthique, aux côtés de la PMA et de l'euthanasie. Comité qui doit rendre son avis aujourd'hui. Nous poserons les bases du débat dans un instant.
Et puis nous nous pencherons ensuite sur le budget de la Sécurité sociale. Il affichera cette année son premier excédent depuis 17 ans.
L'Aquarius se cherche une fois encore un port, privé de pavillon panaméen, avec 58 migrants à son bord. Le navire humanitaire accuse l'Italie de l'ostraciser.
Et puis, dans cette édition encore, vous entendrez la chef de la diplomatie européenne. Elle annonce la création d'une entité indépendante légale pour commercer avec l'Iran et éviter les sanctions américaines.
Le gouvernement français en veut-il aux retraités? Ce sera la question posée par Frédéric Seyss dans son billet politique après ce journal. Mais avant toute chose, penchons-nous sur ce qui n'est pas un miracle, mais qui pourrait y ressembler. Aux États-Unis, plusieurs patients paralysés ont pu remarcher grâce à des stimulations électriques. Deux études viennent d'être publiées. L'une d'elles, dans la revue Nature Medicine, a été menée par des chercheurs du Minnesota. Et si tout reste à faire, elle ouvre cette étude de très belles perspectives. Outre-Atlantique, Loïc Loury, vous nous racontez l'expérience d'un jeune homme paraplégique.
Il avait perdu l'usage de ses jambes dans un accident de motoneige. Ce jeune homme de 29 ans, dont on ne connaît pas le nom, aura attendu 4 ans avant de pouvoir à nouveau se tenir debout. Pour cela, le patient a accepté l'implant d'une électrode dans sa colonne vertébrale et enduré surtout 113 séances d'entraînement. Au total, 43 semaines de tests, durant lesquelles des décharges ont stimulé son système nerveux et des résultats quasi immédiats. Au bout de 2 semaines, le paraplégique parvient à se lever, soutenu par un harnais. Il pouvait, à la fin de l'étude, marcher avec l'aide d'un déambulateur. Alors bien sûr, il n'aura parcouru qu'une centaine de mètres sur un an. Impossible par ailleurs de se mouvoir sans stimulation électrique, mais cela reste malgré tout une première pleine d'espoir. Car si les chercheurs ne savent pas encore précisément comment la magie opère, eh bien leurs travaux confirment que des fonctions du corps que l'on pensait perdues pouvaient être réactivées.
Merci Loïc Loury. Les consultations auront duré 8 mois, donné lieu à 270 débats et à travers ce qu'on appelle les états généraux de la bioéthique. Le comité consultatif national d'éthique rend ses avis ce matin sur des thèmes plus ou moins larges que sont l'ouverture de la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et les femmes seules, l'euthanasie, des thèmes abordés spontanément, mais l'on débat plus rarement de l'autoconservation des ovocytes. Autrement dit, la possibilité pour les femmes de congeler leurs ovocytes jusqu'au jour où elles souhaitent tomber enceinte. Pour l'instant, cette technique est réservée aux femmes souffrant d'infertilité et aux mères victimes d'une maladie génétique rare. Il serait possible de l'élargir à toutes les femmes, une question loin de faire l'unanimité aujourd'hui. Laurence Roque est présidente du syndicat des avocats de France, spécialiste des questions de bioéthique. Et d'après elle, franchir ce pas serait une grande avancée pour le droit des femmes.
L'autoconservation des ovocytes, c'est en réalité faire une stimulation ovarienne de chaque femme qui produira du coup plus d'ovocytes. Ces ovocytes seront ponctionnés, puis conservée, et elle pourra ensuite les réutiliser au moment où elle aura décidé d'enfanter. Or, on sait aujourd'hui, c'est une évolution du droit des femmes, que les femmes ont envie de faire carrière, qu'elles travaillent, qu'elles ont des vies qui font qu'elles ne rencontrent peut-être leur compagnon ou leur compagnonne beaucoup plus tardivement, et qu'à partir de là, se pose la question d'enfanter. Or, est-ce que c'est pas aussi une égalité entre hommes et femmes que de se dire, elles ont aussi le droit de faire passer leur carrière avant et de n'enfanter comme les hommes qu'à 35, 40, voire plus.
Un certain nombre de personnes sont quand même contre. Je veux dire, philosophie, qu'est-ce qui les dérange là-dedans?
Je pense que ce qui les dérange, c'est le pouvoir qu'ont les femmes sur leur propre corps. Parce que l'autoconservation des ovocytes, c'est quand même que les femmes disposent totalement, définitivement, librement de leur corps. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, le slogan féministe, c'était « un enfant si je veux ». On pourrait penser que l'autoconservation, c'est un enfant quand je veux. Elle pourrait finalement enfanter jusqu'à n'importe quel âge. Mais n'est-ce pas le pouvoir des hommes depuis maintenant des siècles? Donc c'est une vraie question. Et je pense que c'est celle-là qui est en débat.
Maître Laurence Rock, interrogé par Tara Schlegel. Les avis du comité national doivent nourrir la réflexion du gouvernement qui prépare un texte pour le début de l'année 2019. 2019 en question, budgétairement parlant. Hier, le gouvernement présentait son projet de loi de finances équilibriste, contenir la dépense publique tout en redonnant du pouvoir d'achat aux Français, alléger les impôts pour les ménages tout en augmentant la fiscalité sur le tabac et le carburant. L'opposition y voit un budget illisible dans son ensemble. Autre budget présenté ce matin, celui-ci, celui de la sécurité sociale, et pour la première fois depuis 17 ans, il sera excédentaire. Cela ne signifie pas la fin du trou de la Sécu, aux alentours de 400 millions d'euros cette année, mais la fin des déficits chroniques. Et c'est pour cela que le gouvernement affiche plus largement un déficit public inférieur en France à 3% du PIB, preuve de la porosité entre ces deux budgets. Jean-Marie Chepette, ancien président de l'assurance maladie, y voit une tendance à l'étatisation de la sécurité sociale. Il s'explique.
Pour parler clair, jusqu'il y a moins de 3 ans, pour être à la sécurité sociale, il fallait être salarié, chômeur ou appartenir à un corps professionnel. Depuis 3 ans, la sécurité sociale, c'est selon votre lieu d'habitation. On voit bien qu'il y a une évolution qui s'appelle l'universalité de la sécurité sociale. Alors, l'État a tendance, ce qui est une mauvaise orientation vue de ma fenêtre, à vouloir avoir un passage politique entre les deux. Le budget de la sécurité sociale tend vers l'équilibre, et comme tout cela rentre dans les prélèvements obligatoires au sens de l'Europe, il y a effectivement une tentation, dirais-je, de l'État à vouloir mélanger, touiller dans les deux dispositifs. Je pense fondamentalement que la sécurité sociale doit être budgétairement autonome du budget de l'État. Les dépenses régaliennes ne doivent pas être confondues avec les dépenses sociales.
Jean-Marie Chepette avec Marie Viennot. De nouvelles critiques de Gérard Collomb à l'encontre d'Emmanuel Macron paraissent encore dans la presse aujourd'hui. « Nous ne sommes pas nombreux à pouvoir encore lui parler », dit le ministre de l'Intérieur à propos du chef de l'État, selon des propos publiés par la Dépêche du Midi. Gérard Collomb, annoncé partant pour le printemps prochain, qui est lui aussi de son côté critiqué par les policiers. Le syndicat Unité SGP Police appelle à la mobilisation aujourd'hui pour demander plus de moyens. L'Aquarius est toujours en pleine mer ce matin, tiraillé entre le devoir d'accoster dans un port pour y débarquer les 58 migrants à son bord et l'appel de nouvelles embarcations de fortune qui dérivent en mer Méditerranée. Si le navire accoste, il sera automatiquement privé de son pavillon panaméen, comme l'a décidé le pays. Le navire humanitaire demande donc à la France de l'accueillir à Marseille, où se trouve le siège d'une ONG. Il demande aussi à l'Europe de lui trouver un nouveau pavillon pour naviguer. Les autorités françaises répondent, elles cherchent une solution européenne selon le principe du port sûr le plus proche, en l'occurrence ce n'est pas Marseille. Pierre Mandiara est le directeur des opérations de Médecins sans frontières qui affrète l'Aquarius avec SOS Méditerranée. Il répond à la France et accuse l'Italie.
Nous sommes les premiers à avoir incessamment répété qu'on voulait débarquer toujours dans le port le plus proche, ce qui nous permet de repartir le plus vite possible sur les zones de recherche et de sauvetage. Simplement, ça n'a pas été très audible, mais simplement, il y a une circonstance exceptionnelle qui fait qu'on nous demande que ce soit Marseille pour cette fois-ci, c'est que Panama, sous la pression de l'Italie, a cru bon retirer son pavillon à l'Aquarius pour des raisons fallacieuse, hein. C'est simplement parce que l'Italie les a menacés de représailles s'ils nous accordaient leur pavillon.
Le Panama dit que vous ne respectez pas les procédures juridiques internationales.
Oui, et c'est pas vrai. Avant, aujourd'hui c'est ça, hier c'était autre chose, demain ce sera encore autre chose. La véritable raison, et on a des éléments, on a des emails qui le montrent, c'est qu'il y a eu des pressions de l'Italie, de l'intimidation, des menaces de la part de l'Italie contre le Panama. Donc c'est une manœuvre politique, vous voyez, internationale de grande ampleur pour faire en sorte que surtout le dernier bateau d'ONG qui se trouve dans la zone de recherche ne puisse pas sauver les quelques dizaines de rescapés que l'on peut sauver.
Pierre Mandiara, directeur des opérations de Médecins sans frontières, il répondait à Lucie Barbarin.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Emmanuel Macron et Donald Trump se sont entretenus en tête-à-tête en marge de l'Assemblée Générale de l'ONU.
Oui, hier soir, pendant plus d'une heure, ils ont discuté des grands sujets internationaux, dont de la Syrie, de l'Iran, discuté aussi des différents commerciaux, cherchant toujours à atténuer leurs divergences. Face aux caméras, Donald Trump et Emmanuel Macron se sont certes serré la main à deux reprises, mais sans mettre en scène la même effusion que lors de leur première rencontre.
Thank you very much. It's a great honor to have a friend of mine, but I think we are here to deliver.
Nous sommes ici pour obtenir des résultats, répond Emmanuel Macron à Donald Trump, ravi de revoir son ami. Rien de prégnant n'a filtré ensuite de leur rencontre. Quasiment au même moment, à New York également, la chef de la diplomatie européenne prenait-elle officiellement la parole après une réunion consacrée à l'Iran, une réunion pour préserver l'accord sur le nucléaire iranien face à Donald Trump aux États-Unis. Federica Mogherini a annoncé la création d'une entité spécifique pour pouvoir continuer à commercer avec Téhéran, notamment pour l'achat du pétrole, et échapper ainsi aux sanctions américaines. Federica Mogherini.
Conscient de l'urgence et de la nécessité de résultats tangibles, l'Union européenne, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Chine et la Fédération de Russie ont accueilli favorablement les propositions pratiques visant à maintenir et à développer les canaux de paiement avec l'Iran, et notamment l'initiative de créer un véhicule dédié pour faciliter les paiements liés aux exportations iraniennes, y compris le pétrole, et les importations. Cela aidera et rassurera les opérateurs économiques qui poursuivent leurs affaires avec l'Iran. Les participants ont réaffirmé leur ferme volonté à poursuivre des travaux visant à rendre opérationnel un tel véhicule, ainsi que l'engagement pris auprès des partenaires régionaux et internationaux.
Ces partenaires pourraient donc participer à une sorte de troc, un troc sophistiqué. Si par exemple l'Iran vend du pétrole à une entreprise espagnole et qu'un fabricant allemand équipe une installation à Téhéran, alors la somme correspondant à la livraison du pétrole servira directement à payer le fournisseur allemand. Cette annonce a été faite, je vous le disais, quelques heures avant le discours à l'ONU de Donald Trump. Le président visera notamment à mobiliser le monde contre Téhéran. Il sera à la tribune des Nations Unies dans l'après-midi tout à l'heure, tout comme l'Iranien Hassan Rouhani, le Français Emmanuel Macron. Cette année, même s'il manque le Chinois Xi Jinping ou le Russe Vladimir Poutine, ils seront au total 130 dirigeants dans l'hémicycle. C'est plus que l'année dernière. Alors qu'est-ce qui attire tant les chefs d'État, Maxime Tellier ?
C'est le Super Bowl de la diplomatie qui se déroule tous les ans à New York, comme le dit l'un des correspondants de la chaîne américaine CNN, un moment très particulier qu'a vécu Philippe Bolopion, ancien correspondant du Monde et de France Culture à l'ONU. Il travaille aujourd'hui pour l'ONG Human Rights Watch.
C'est vraiment la grand-messe de la diplomatie internationale. C'est sans doute la plus grande concentration de chefs d'État et de gouvernement qu'on puisse observer n'importe où sur la planète. New York, d'ailleurs, la ville elle-même est transformée par cet événement. Il y a de nombreuses rues qui sont bloquées. On voit passer en permanence des convois de limousines encadrés de police qui vont et viennent entre l'ONU et les grands hôtels des alentours.
Et comme au théâtre, il y a une scène, la tribune de l'Assemblée Générale, endroit magnifique aux airs de cathédrale à la forte charge symbolique. Les chefs d'État s'expriment ici devant leur père dans ce qui fait office de parlement du monde. Des moments de la mémoire collective y ont été enregistrés. Fidel Castro et son discours fleuve de 4h30 en 1960. Khrouchtchev tapant des mains sur la table la même année. Yasser Arafat en 1973, Nelson Mandela en 90 ou encore George Bush menaçant l'Irak quelques mois avant l'invasion de ce pays. Des moments historiques mais qui sont plutôt rares finalement car ce rendez-vous comporte aussi un puissant potentiel soporifique avec ses innombrables discours convenus et sans conséquences. D'ailleurs une fois passées ces quelques heures de frénésie, le monde oublie l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le vrai pouvoir à l'ONU est détenu au Conseil de sécurité et c'est ce lieu que vous verrez sur toutes les images le restant de l'année.
Merci Maxime Tellier. Pour aller plus loin sur ce sujet, rendez-vous sur franceculture.fr. L'Assemblée Générale de l'ONU, grand théâtre de la diplomatie mondiale, c'est un article à lire sur notre site internet. Le principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny, a été condamné hier à une nouvelle peine de 20 jours de détention alors qu'il sortait tout juste de prison. Alexei Navalny est accusé d'avoir organisé une manifestation non autorisée en Russie. Une grève générale est annoncée aujourd'hui en Argentine. Palestine. Les syndicats y parlent d'une même voix contre le retour du FMI dans le pays, contre aussi la politique du président Macri. Le gouvernement évoque de son côté un financement préventif de la part du Fonds monétaire international, un prêt de 50 milliards de dollars pour éviter la crise et pour stabiliser le marché. Dans le même temps, toutefois, le pays, l'Argentine, vit des vagues de licenciements, vit aussi l'inflation, la dévaluation record et une hausse de la pauvreté dans le pays. Et puis en bref encore, Manuel Valls sera-t-il candidat à la mairie de Barcelone? Le secret de Polichinelle doit être dévoilé ce soir à 19h. Un temps frais et ensoleillé à Barcelone aujourd'hui, tout comme en France. Comptez 11 degrés ce matin à Reims, 12 à Lille et sur le Grand Est, 13 degrés en Bretagne et en région parisienne, 15 à Bordeaux et Lyon, 20 à 23 degrés ce matin près de la Méditerranée.